Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Philippe Godin, directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions au sein de l'École pratique des hautes études. Vous publiez « Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même » aux éditions Robert Laffont. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Godin, c'est un livre qui tente de remettre les choses à l'endroit sur cette question de la laïcité, une question qui est depuis quelques années au cœur de vives polémiques en France. Vous interrogez le passé et le présent, mais à la fin du livre, vous donnez des pistes pour qu'on parvienne à l'apaisement sur ce sujet. D'où vient cette notion de laïcité dans l'histoire de France? Comment, finalement, on en est arrivé à cette loi de 1905?
Alors, la notion est certainement relativement ancienne et il faut en faire l'histoire. Et ce qui est assez étrange, c'est que le mot lui-même est très récent, en fait. Il date des années 1870, c'est-à-dire à un moment très particulier de l'histoire politique française, c'est-à-dire ce moment où la République va finir, comme régime politique, j'entends, va finir par trouver la stabilité qu'elle n'avait jamais réussi vraiment à trouver, au fond, depuis la Révolution française. Et les républicains étaient animés de cette idée de république qui était fort belle, mais qui avait aussi sans doute conscience du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de républicains. Et donc sans doute que le premier chantier des républicains, ce fut la laïcisation, je dirais, de l'école d'une manière générale, de l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Vous dites qu'ils ont formé les républicains.
Tout à fait, je crois que l'école de la République, l'école laïque, a été ce lieu où, au fond, la France a, via l'État, c'est sans doute une des grandes caractéristiques de notre histoire politique, c'est-à-dire que l'État forge, informe la nation dans la conscience qu'elle a d'elle-même. Maintenant, par rapport à votre première question, je crois que ça serait une erreur de penser que la laïcité date de la loi de 1905, quelle que soit dite de séparation des églises et de l'État.
Pour vous, c'est un aboutissement, la loi de 1905.
D'une certaine manière, cette loi clôt un cycle qui est très long. Mais s'il fallait faire l'histoire de la laïcité, encore une fois, il faudrait commencer plus tôt. Peut-être que nous aurons l'occasion de le faire. Mais je crois que c'est proprement avec la Révolution française que les grands principes, tels qu'ils sont déposés notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, principe d'égalité de tous devant la loi, cette idée que la loi est l'expression de la volonté générale et qu'elle n'est pas, de ce point de vue-là, le dépôt d'une révélation. Et puis surtout cet article 10, que je crois tous les citoyens français devraient connaître par cœur, et en particulier les fonctionnaires, cet article 10 qui, à sa façon, je trouve, synthétise déjà l'idée la plus générale de ce qu'est la laïcité. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Nous avons là les deux termes fondamentaux, la liberté et le principe, mais ce principe n'est viable qu'à l'ombre et sous la protection, et aussi les limitations qui viennent de la loi.
Quand vous dites que les fonctionnaires devraient connaître cet article 10 par cœur, c'est parce que certains agents de la fonction publique cultivent certains malentendus autour de la loi de 1905.
Alors je crois qu'il n'y a pas de volonté de malentendu, mais la France est un pays qui a beaucoup de fonctionnaires. Ce n'est pas un jugement de valeur, 5 ou 6 millions, donc beaucoup de fonctionnaires en France. Et on l'oublie toujours, c'est la République qui est laïque. Et donc les fonctionnaires n'ont pas comme hommes et femmes, ils sont ce qu'ils sont dans leur vie en général et dans leur vie privée. Ils ont des convictions religieuses ou non. Mais en tant que fonctionnaires, ils représentent la République et donc ils représentent la laïcité, c'est-à-dire la neutralité confessionnelle, commerciale, la neutralité partisane sur le plan politique. Mais je dirais, au-delà de la neutralité qui a un côté négatif, l'impartialité, au fond. L'impartialité, c'est-à-dire d'accueillir et de traiter quiconque, finalement, quelles que soient les convictions des uns et des autres, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, pourvu, bien évidemment, qu'on reste dans le cadre de la loi de la République.
Alors Philippe Godin, vous revenez aussi sur la loi de 2004 qui a interdit les signes ostensibles à l'école et vous rappelez que les élèves sont des usagers ils ne représentent pas l'État. Donc il a fallu que la loi s'adapte.
Alors il faut, comme toujours, le droit vient ponctuer la vie des nations, la vie d'une société. Donc le droit n'est pas une fin en soi détachée de la vie sociale. Autrement dit, pour comprendre le sens de cette loi, il faut la remettre dans son contexte. C'est vrai qu'à la fin des années 80, effectivement, il y eut un certain nombre de tensions dans des établissements scolaires et on était dans une situation finalement assez inextricable finalement entre l'état du droit et puis des contentieux qui pouvaient surgir entre des individus, des usagers donc du service public et par exemple le chef d'établissement qui pouvait juger à tort ou à raison d'exclure un élève ou une élève parce qu'il arborait des signes religieux et en particulier évidemment des foulards islamiques. Et donc la situation était devenue tellement inextricable, il y avait tant de recours que finalement, après notamment les conclusions du rapport Stasi, il a été décidé de recourir à la loi. Cette loi a été d'ailleurs votée à une écrasante majorité. Alors c'est vrai, c'est une inflexion de la pratique de la laïcité. Les professeurs, les administratifs sont tenus à la neutralité. Ce n'est pas la situation des usagers du service public. Et donc là, l'école est un lieu très particulier, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas des usagers tout à fait comme les autres, puisqu'ils sont la plupart du temps dans l'enseignement primaire ou secondaire des mineurs. On ne peut pas dire qu'ils sont là uniquement à titre d'individus revendiquant leurs droits démocratiques. Ils sont des élèves qui doivent suivre un enseignement, mais ils sont aussi des élèves qui ont des droits et qui ont une certaine liberté d'expression. Et d'ailleurs, il faut le dire, il faut le rappeler pour éviter toute confusion. Un élève peut tout à fait exprimer des opinions religieuses, pourvu que cette expression ne soit pas assortie de violence ou de vouloir à tout prix convertir les autres ou imposer aux autres ses convictions. Il peut y avoir un journal, par exemple, dans un établissement scolaire où des élèves peuvent prendre la plume, avoir des discussions. Il ne faut surtout pas faire de la religion un sujet tabou, un sujet interdit. Il faut au contraire en faire un sujet de discussion, un sujet, je dirais, de connaissance, c'est-à-dire dans l'esprit de ce qu'est l'école. Mais, alors là, évidemment, c'est toute la question de la loi. Cette loi, effectivement, a été prise contre les signes religieux ostensibles, quels qu'ils soient, et de quelque religion que ce soit. Je pense que, historiquement, ça se comprend. Ça tombe bien, si j'ose dire, parce que vous avez commencé par me poser une question sur l'histoire de la laïcité. Et finalement, j'ai spontanément fait référence à cette période bien particulière de la laïcisation de notre système d'enseignement. Et donc, il faut bien comprendre qu'en France, l'école a été porteuse d'un combat. Parce que la laïcité a connu une grande période d'apaisement, elle est redevenue un lieu de combat, et on va y revenir, mais elle a d'abord été un lieu de combat. Il y a même une expression très, très célèbre, la guerre des deux Frances, n'est-ce pas ? La catholique et la laïque. Et donc, l'école comme instrument d'émancipation par rapport à une France, je dirais, à la fois très rurale, très paysanne et très catholique, une France qui avait résisté d'une certaine façon pendant tout le XIXe siècle aux idées de la Révolution, aux idées des grandes villes, en quelque sorte. Et donc, sans doute que c'est la raison pour laquelle la question du voile islamique a pu heurter des sensibilités au sein du système éducatif. Donc, vous voyez, j'essaye de comprendre le sens de la loi. Alors, maintenant, si vous me posez la question, je pense que cette loi n'a pas tout résolu, loin s'en faut. Loin s'en faut, tout simplement parce que une jeune fille, par exemple, peut ôter son voile avant d'entrer dans un établissement scolaire, mais aura toujours, et c'est le propre de l'inventivité humaine, la possibilité de porter telle robe, tel attribut qui fera qu'on se doutera facilement de son appartenance à telle ou telle famille religieuse. Et là, je pense que, et là j'en termine, pardonnez-moi d'être un peu long, je crois que, et c'est d'ailleurs le point de vue de l'institution, la sagesse s'impose. Cette loi a été votée, c'est la loi de la République, elle a apporté un certain apaisement, mais je crois que la sagesse, c'est de s'arrêter là, parce que la chasse aux signes religieux, après, n'a plus de fin. L'important, ce sont les comportements. Les comportements, c'est-à-dire qu'on attend d'un élève qu'il suive les cours, que les professeurs puissent dérouler le programme normalement, qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'on aille au cours de natation, qu'on suive le cours de sciences biologiques ou le cours d'histoire normalement. Et puis pour le reste, comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas imaginer que cette loi interdit aux élèves toute forme d'expression. Ils ne sont pas devenus pour autant des fonctionnaires.
Ce que vous expliquez, puisque tout à l'heure vous avez évoqué le nombre de fonctionnaires en France, c'est qu'un fonctionnaire n'a pas à dire à un usager du service public, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette administration parce que vous portez un signe ostensible.
Alors ça, tout à fait. Alors je crois qu'il peut arriver que cela relève de la malveillance ou en tous les cas de préjugés négatifs à l'égard des individus. Il peut arriver aussi que ce soit tout simplement une mauvaise connaissance de la loi. C'est vrai que d'une manière générale, les individus, ils sont ceux qu'ils sont, la liberté est la règle. Et donc, ils peuvent jouir de leurs droits au même titre que tous les autres. Alors, la loi de 2010, par contre, n'a pas été prise au nom de la laïcité, c'est-à-dire la loi qui interdit de masquer son visage dans l'espace public.
La loi anti-burqa.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, encore une fois, après, évidemment, sans doute que c'est l'existence de cette fameuse burqa qui a déclenché, si j'ose dire, le désir de faire une telle loi. Mais les motifs de la loi, en quelque sorte, et la circulaire d'application de la loi, parlent plutôt d'une philosophie du vivre ensemble, parlent plutôt d'ordre public et parlent aussi de défense du droit des femmes. Donc ce n'est pas du point de vue de la laïcité que cette loi est justifiée.
Justement, on a tendance parfois à confondre la question du droit des femmes et la laïcité dans le débat public.
Alors, si l'idée de laïcité est profondément liée à la question de l'égalité en droit, je crois que c'est, encore une fois, tout le monde sait que l'égalité en droit n'est pas suffisante pour promouvoir une égalité réelle, comme on dit. Hein ? Mais il faut se souvenir que la Révolution française a quand même rompu avec une société dans laquelle il y avait des distinctions d'ordre suivant la naissance et suivant que l'on était de telle ou telle catégorie, en quelque sorte, on n'était pas jugé, par exemple, par les mêmes tribunaux. Donc, la grande idée de la Révolution et qui participe à l'idée de laïcité, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit son appartenance confessionnelle, notamment, ne peut pas ne pas avoir de lien avec l'égalité de tous, quel que soit son sexe. Mais là aussi, il faut être honnête et faire une mise en perspective historique. La France est très fière de ses droits de l'homme de 1789, et elle a raison, mais la France doit aussi reconnaître qu'elle a mis un temps fou avant d'admettre que les droits de l'homme, ce sont aussi les droits des femmes. Nous le savons bien, les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire beaucoup plus tard par rapport à la déclaration de 1789. Et donc, si au sein de certaines convictions ou au sein de certaines religions, les droits des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes ou ne sont pas égaux, on peut comprendre qu'il y ait, je dirais, une susceptibilité ou une sensibilité sur la question de l'égalité des hommes et des femmes, eu égard au grand principe de la laïcité. C'est comme ça que je ferai le lien, même si je reconnais que ça n'a pas été instantané, loin s'en faut. Et puis, quand on parle des hommes et des femmes, Je rappelle toujours que la femme tunisienne, par exemple, eut accès à la contraception plus tôt que la femme française.
Philippe Godin, récemment une jeune dirigeante de l'UNEF a été la cible de certains responsables politiques en raison de son voile. Elle a été très, très, très critiquée. À aucun moment, ces critiques n'ont porté sur son discours politique, sur ce qu'elle pense vraiment. Ces critiques ont porté sur son voile. Quel regard vous portez sur cette polémique ?
Alors, très honnêtement, je n'ai pas suivi ça de près et je ne sais pas trop qui est-ce et ce qu'elle a pu déclarer. Donc, je ne rentrerai pas dans le contenu. Ce que je peux dire avec une certaine assurance, c'est qu'il n'y a là rigoureusement aucun problème juridique ni aucune atteinte à la laïcité. Donc, je ne vois que deux questions qui sont des questions tout à fait internes à l'UNEF et qui concernent plus particulièrement cette jeune femme. Question interne à l'UNEF, c'est à eux de savoir quelles sont leurs convictions et ce sur quoi ils veulent se battre, et s'ils jugent qu'une femme qui porte un foulard est une bonne représentante de ce à quoi ils croient. Ça, c'est le problème de l'UNEF. Quant au problème de cette jeune femme, ça doit la renvoyer à sa propre conscience, c'est-à-dire y a-t-il harmonie, oui ou non, entre ce qu'elle croit et ce qu'elle doit défendre au titre d'une représentante d'un syndicat.
Alors vous écrivez dans votre livre « Tempête sur la laïcité » qu'interroger cette notion de laïcité revient quasiment à demander à la France de s'interroger, de se mettre sur un divan. Finalement, que disent ces passions et ces polémiques sur l'état du pays aujourd'hui ?
Alors oui, alors je dois dire que au travers de ce petit livre, il n'y a pas là que le fruit ou le résultat d'une réflexion théorique, même si par tempérament, étant philosophe de formation, j'aime beaucoup la réflexion. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, dans le cadre de l'institut que vous avez cité, je fais beaucoup de formations, essentiellement auprès de fonctionnaires, mais de toute fonction publique, des professeurs, bien sûr, des magistrats, des gens du système hospitalier, des éducateurs, des fonctionnaires territoriaux. Et j'ai remarqué la chose suivante. J'ai remarqué deux choses. La question de la laïcité est faussement simple. Il faut le reconnaître, donc il faut prendre du temps pour travailler. Et sans doute, là je me permets d'être affirmatif, quels que soient d'ailleurs les choix qui ont déjà été faits par les différents ministères de la fonction publique, à savoir de donner une formation aux fonctionnaires sur les questions de laïcité, la formation initiale et continue des fonctionnaires sur ce sujet-là reste encore insuffisante. Mais la tâche est immense compte tenu du nombre de fonctionnaires. Donc, un besoin de connaissances, il faut prendre le temps. Mais plus encore, mieux encore, quand on est dans un cadre un peu détendu et quand on essaie tout simplement d'apporter des connaissances et de ne surtout pas être dans un état d'esprit polémique ou idéologique, je pense que ça fait énormément de bien à tous les Français, et aux fonctionnaires en particulier, de pouvoir calmement parler de ces choses-là. Parce que ma conviction, c'est que la laïcité a un rapport avec le politique. Et donc, il faut toujours distinguer le politique et la politique. Le politique, c'est au fond le fait de s'accorder pour éviter à tout prix la guerre civile. Il n'y a pas de société qui ne puisse trouver une forme d'accord, je dirais à la fois symbolique, moral et politique, pour, comme on dit, vivre ensemble, bien que nous soyons, et c'est une bonne chose, fort différents. Le propre de la démocratie, c'est le fait de renoncer à être tous d'accord. Tandis que la politique, ma foi, c'est une forme de combat, c'est une forme de guerre, mais métaphorique. C'est-à-dire que on s'affronte, mais on respecte la règle du jeu qui s'appelle la Constitution. Et puis quand on perd, on passe dans l'opposition. Et puis quand on gagne, on est du côté du gouvernement. Mais on accepte une règle commune. Donc voilà, faire des formations sur la laïcité, c'est acquérir des connaissances nécessaires, mais prendre un moment calme dans une époque, sans doute que ça a été le propre de toutes les époques, mais aujourd'hui, dans une époque agitée, tendue, on est tous pris dans le tambour de cette espèce de machine à laver qui s'appelle la globalisation. Et depuis une trentaine d'années, le religieux se mêle à des questions sociales et politiques vives. Donc, au lieu d'avoir peur et de ne pas en parler, parce que de toute manière, ça nous revient sur la figure, il faut prendre du temps pour en parler, si possible, d'une manière informée, et puis calmement. C'est ce que j'essaye de faire dans mon métier, et mon livre reflète, si vous voulez, un peu ça.
Et c'est ce que nous essayons de faire également sur Radio Orient. L'invité de Pluriel est Philippe Godin. Je rappelle le titre de votre livre, « Tempête sur la laïcité ». C'est publié aux éditions Robert Laffont. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie du philosophe Philippe Godin. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut européen en sciences des religions au sein de l'École pratique des hautes études et vous publiez « Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même » aux éditions Robert Laffont. Alors, vous formez des fonctionnaires à cette notion de laïcité. Et dans le livre, finalement, vous parlez aussi des idées reçues sur la laïcité. J'aimerais qu'on aborde cette question.
Alors, l'esprit, la philosophie, la vocation de la collection donc, chez Robert Laffont, dirigée par Mazarine Pinjot et Sophie Norman, s'appelle donc « Les nouvelles mythologies ». C'est un clin d'œil à Roland Barthes, où il s'agit justement d'interroger ces récits qui passent pour des évidences, pour voir ce qui n'est pas si évident que cela et qui mérite la réflexion et la discussion. Et donc j'ai évidemment tenté de le faire pour notre fameuse laïcité. Alors, bien sûr que la laïcité, c'est l'autonomie réciproque de la sphère de l'État d'une part et de la sphère des cultes d'autre part. Nous savons bien que la loi de 1905, dont nous avons déjà parlé, s'appelle la loi de séparation des Églises et de l'État. Comment le nier ? Elle aurait pu s'appeler peut-être aussi loi de liberté, puisque l'article 1 de la loi de 1905 dit que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans le cadre de la loi et de l'ordre public. Donc, liberté de conscience assurée, liberté de culte garantie, on voit bien que ce qui vient d'abord, c'est la liberté. Et j'ai presque envie de dire que la séparation est une conséquence de la liberté, séparation financière. La République ne reconnaît aucun culte, n'en salarie aucun, ne subventionne aucun culte. Et donc on supprime les budgets publics. Mais il y a l'alinéa 2 de l'article 2 et qui dit « Toutefois pourront être maintenus les budgets publics qui concernent notamment les aumôneries. » Alors l'aumônerie militaire est réglée ailleurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la République qui est généreuse et bonne fille, la laïcité qui est plus libérale qu'on ne le croit, n'en veut pas à la religion et à ceux qui sont religieux. Bien au contraire, elle pense même que quand un individu n'a pas sa liberté de corps, je dirais, qu'il soit soldat sur le terrain, qu'il soit prisonnier, qu'il soit malade à l'hôpital, ou qu'il soit, pourquoi pas, pensionnaire dans un établissement scolaire, eh bien, c'est un droit fondamental et c'est un droit individuel que celui de pouvoir pratiquer sa religion. Et à ce moment-là, quand on ne peut pas aller vers sa religion ou son culte, eh bien, c'est le culte qui doit pouvoir venir vers celui qui le demande. Sans doute très modestement, mais quand même, la République apporte un soutien matériel, financier, pour que des aumôniers puissent répondre à ce désir et à cette liberté exprimée par des individus.
Donc l'expression « séparation de l'Église et de l'État », vous lui substituez plutôt un vivre ensemble de la religion et
alors,
de l'État ?
Non. Il faut, moi, la définition que je donnerais, si vous voulez, la plus générale de ce qu'est la laïcité. Je rappelle que la laïcité, c'est ni un concept mathématique, ni un objet sensible, descriptible par l'expérience. C'est un objet juridique et politique façonné par l'histoire. Et moi, la définition la plus générale que je donnerais, c'est que la laïcité, c'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience, ce qui veut dire croire comme ceci ou comme cela, la liberté de croire autrement, la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, protection de la liberté de conscience, protection de la liberté de culte, ce qui veut dire quelque chose de collectif, avec une emprise matérielle, il faut des lieux de culte, il faut s'organiser. Donc, protection de la liberté de conscience et de culte, mais aussi encadrement de ces deux libertés par une loi qui est celle d'un État non confessionnel. Et donc, le principe, en ce sens-là, de séparation est essentiel. Mais là où il y a une mythologie, c'est de croire que la séparation est pure et simple. Alors que je vous ai donné un exemple, mais on pourrait en trouver d'autres. Si vous voulez, par exemple, créer une association cultuelle qui n'a pour objet que le culte et qui a quelques avantages fiscaux par rapport à d'autres associations comme les associations 1901, eh bien, vous devrez obtenir une forme de petite reconnaissance, si vous voulez, préfectorale. Donc, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ignorent tout ou sont totalement séparés des questions de religion. Autrement dit, indépendance certainement et assurément, non-reconnaissance, ça veut dire qu'il n'y a pas de culte établi, en quelque sorte, mais il y a toujours néanmoins des relations nécessaires. Et j'ai envie de dire que plus que jamais aujourd'hui, il s'agit de revenir contre cette idée de cette distinction ou de cette séparation, mais plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin, je dirais à la fois, nous avons besoin d'intelligence, intelligence au sens de la connaissance et intelligence au sens où on dit vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire capacité d'entrer en relation avec.
Vous n'aimez pas l'expression laïcité ouverte, vous préférez l'expression laïcité intelligente, c'est finalement cette sagesse que vous préconisez du discernement.
Tout à fait, alors je ne fais pas partie de ces gens qui hurlent dès l'instant qu'on accole un adjectif au mot laïcité, parce que cela même
On sacralise presque un mot.
D'abord, le langage naturel n'obéit aucune forme de police de ce type. Je suis désolé, on parle librement jusqu'à preuve du contraire. Et donc, quand on dit que la laïcité est bonne ou une bonne chose, on donne un adjectif. Donc, il n'y a aucune interdiction à donner un adjectif à la laïcité. Encore faut-il qu'il soit juste. Je n'aime pas cet adjectif de laïcité ouverte parce qu'on a l'impression que la laïcité, c'est tout et n'importe quoi. Par contre, laïcité d'intelligence, qui était l'expression de Régis Debray, elle me paraît justement très pertinente parce qu'elle s'opposait à ce qu'il appelle la laïcité d'abstention. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on est laïque, on ne s'en préoccupe plus, on reste interdit. Et à l'école, ça signifiait cela. C'est-à-dire que enseigner les faits religieux à l'école, ça ne veut pas dire enseigner les religions, enseigner à être pour ou contre les religions, mais essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour des religions. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire une laïcité d'intelligente. Moi, j'irai plus loin en disant laïcité intelligente, d'une manière générale, qui est aussi cette capacité à entrer en relation avec ces composantes vivantes de la société. Comment voulez-vous qu'une république soit elle-même vivante si elle n'est pas capable d'avoir des relations tranquilles et vivantes avec les forces sociales? Évidemment, tout dans la vie sociale ne revient pas aux religions, mais il se trouve qu'il y a des forces sociales, il y a des communautés religieuses qui font la vie sociale et qui font aussi que la vie sociale est de qualité. La religion peut parfois fédérer des haines, mais heureusement, ça n'est pas que le cas. Les communautés religieuses fédèrent aussi des initiatives, des solidarités. Elles sont des ferments de culture, tout notre patrimoine et de toutes les civilisations en témoignent. Donc il faut s'intéresser à ces questions.
Vous insistez beaucoup sur l'enseignement du fait religieux. Une réflexion m'est venue en lisant votre livre. Finalement, la France s'est déchristianisée ces dernières années. Il y a énormément d'éléments du patrimoine religieux chrétien que les jeunes ne connaissent pas. Et c'est très difficile parfois de comprendre un tableau, de comprendre une œuvre littéraire. Si on n'a pas ce patrimoine religieux, si ça n'est pas transmis par la famille, qui peut le transmettre ?
Eh bien, précisément, la Trinité n'est pas qu'une station de métro. Saint-Sébastien n'a pas été attaqué par les Indiens. c'est les bons mots qu'on rapporte, effectivement, d'élèves qui se promènent dans un musée, qui disent « Mais qui c'est cette meuf avec ce petit garçon sur ses genoux, etc. ?» Bon, en pensant à Marie et Jésus. Voilà, je crois que le patrimoine, c'est ce qui appartient à tout le monde. Et il n'y a rien de plus démocratique que de donner les clés. Alors évidemment, les clés, elles ne sont pas que religieuses, mais elles sont aussi religieuses en ce sens que c'est un langage, ce sont des récits. Et il y a aujourd'hui dans nos musées, il n'y a pas que des œuvres qui appartiennent à la chrétienté. C'est pas un hasard s'il y a un département des arts de la civilisation musulmane au Louvre, par exemple. Et donc, c'est extraordinaire que les petits Français d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont divers du point de vue de leur conviction et de leur religion, bah, puissent se sentir chez eux, dans le patrimoine de la France. Mais le patrimoine de la France, il accueille aussi en son sein le patrimoine du monde entier. Et c'est pas un hasard non plus si le Louvre, par exemple, a des extensions dans des pays qui sont des pays musulmans. Et je pense que la rencontre des œuvres d'art du passé, mais aussi d'espaces différents, c'est une manière de s'initier à une humanité commune.
Dans le livre, vous dites que la liberté de culte est grande en France, contrairement aussi aux idées reçues.
Est-ce que vous me permettez de raconter cette petite anecdote ?
Bien sûr, bien sûr.
Donc, je participe depuis de nombreuses années à ces formations qu'on appelle des diplômes universitaires qui se destinent à tous, mais plus particulièrement à des cadres religieux et plus particulièrement à l'origine à des cadres religieux musulmans. Ne serait-ce tout simplement pour une raison très simple. Il y a des musulmans qui sont à l'hôpital, il y a des musulmans qui sont des soldats français, de même qu'il y a aussi des Français musulmans qui sont en prison. Et donc, pour que l'égalité soit respectée, il faut qu'ils puissent pouvoir faire appel à des aumôniers du culte musulman. Et donc, apprendre les règles du jeu, c'est très important. Et c'était un petit peu la vocation première. Mais ces règles du jeu, encore une fois, tout le monde doit les apprendre. Et puis, ces diplômes universitaires sont l'occasion de faire se rencontrer des personnes de cultes différents ou des gens qui ne sont pas religieux. Donc, c'est déjà une belle expérience en soi. Je donnais un cours dans le cadre de ces formations. Et là, mon public était entièrement musulman. Et donc, on parle de ces choses-là. Et je parle à un public musulman engagé exactement comme je vous parle. Et je peux vous assurer que ça se passe très bien. Il y avait là un aumônier hospitalier qui, je crois, faisait un excellent travail, jouissait d'une très bonne réputation dans l'hôpital dans lequel il travaillait et qui était tout énervé parce qu'il venait de vivre quelque chose de désagréable. À savoir qu'une femme, ma foi, était décédée. Malheureusement, c'est assez banal à l'hôpital. Et donc, cette femme était musulmane. Donc, une femme doit pouvoir venir faire la toilette rituelle dans ce cas-là. Et cette femme se présente avec un voile intégral. Donc, vous pensez bien que l'accès de l'hôpital lui a été refusé. Cet aumônier connaissait cette femme et il pensait que par sa seule intervention, il allait pouvoir la faire entrer. Et ça ne fut pas évidemment possible. Et alors il était tout vexé, ça peut se comprendre. Et alors il commence à tenir le discours « Ah, en France, il y a une islamophobie d'État, etc. » Alors tout le monde commence un peu à s'agiter. Donc j'étais bien embêté puisque je viens de vous dire que tout ce que je recherche, c'est le calme et la tranquillité pour pouvoir parler calmement de ces sujets qui rendent tout le monde un peu fou.
Et là, vous avez un souvenir qui...
Et alors là, j'ai l'idée de raconter une petite histoire à mes étudiants et qui venait du fait que j'avais participé à un colloque qui était très intéressant et qui était organisé, c'était la ville de Perpignan. Et alors, dans ce colloque, il y avait des religieux, il y avait des universitaires, j'avais été invité à ce titre-là. Il y avait l'université qui participait, des étudiants qui prenaient des notes, il y avait une subvention du conseil départemental, une autre du conseil régional, l'UNESCO était présent, donc c'était tout à fait passionnant. Et puis le dimanche, parce qu'il faut bien une convention et on est en France, il y avait un moment un peu particulier, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un moment spirituel, mais qui concernait toutes les familles. Donc l'évêque et le pasteur prêchaient ensemble à la cathédrale. Il y avait un moment dans une pagode avec des bouddhistes. Il y avait même un moment avec des francs-maçons dans leur temple. Il y avait un moment à la synagogue. Et puis, il y avait un moment à la mosquée. Et donc, moi, je vais à la mosquée. Et donc, on est donc assis en tailleur sur le tapis de la mosquée. Et donc, là, il y a une intervention pour expliquer la spiritualité musulmane. Et puis, donc, le président de la mosquée est là. Je sympathise avec lui. C'était un homme qui avait sans doute à peu près le même âge que moi. Il était médecin, sa femme aussi, je crois. Et je lui dis, mais bon, alors comment ça vous est venu d'être aussi pratiquant, de vous investir à ce point-là dans l'organisation du culte musulman? Il me dit, bah, écoutez, moi, la religion, ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'ai fait mes études en Algérie, etc. Après, je suis venu travailler en France. Et puis, petit à petit, ça arrive souvent. Hein, avec l'âge, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la religion et à ma religion en particulier. Et je vais très bien. Et je suis ravi, je vis mon islam très heureux en France. Donc, je raconte cette petite histoire. Alors, du coup, dans la salle de classe, tout d'un coup, il y a une jeune femme qui lève le doigt, qui dit « Oui, c'est vrai, maintenant, je me rappelle, quand je vivais moi-même en Algérie, dans le village où j'étais, la mosquée était ouverte aux femmes, mais le vendredi seulement. Alors que là, dans la banlieue de Lyon, je peux aller à la mosquée tous les jours, si je veux. » Et puis, une autre personne dit, bah oui, moi je suis d'origine tunisienne, je me rappelle que du temps du régime de Ben Ali, parfois il y avait des descentes de police, et on vérifiait l'usure des pantalons pour voir si on ne priait pas trop. Et là, tout d'un coup, toutes les paroles se sont déliées, et on a tous convenu que, ma foi, le culte musulman en France jouissait d'une extraordinaire liberté, pourvu qu'on soit dans le cadre de la loi. Et du coup, bah, tout le monde est redevenu calme. Et je dirais que l'aumônier hospitalier était plus du tout dans le rôle d'une victime et il avait retrouvé toute sa sérénité. Et voilà, et je me suis dit qu'au fond, les mots qu'il employait n'étaient pas au début forcément exactement les siens, mais des mots qui traînent un peu partout. Voilà.
Il est important vraiment d'échanger avec bienveillance pour dépassionner les débats. C'est ça votre philosophie.
Ah, mais ça, je mais alors, en même temps, il faut dire les choses comme elles sont. Je le dis un peu caricaturellement, mais si vous pensez que le fait que votre fille soit obligée d'enlever son voile pour aller à l'école, ou si vous pensez que votre sœur, votre fille ou votre femme, ne pouvant pas porter un voile intégral dans la rue, eh bien, si cela va les conduire, et vous-même en même temps directement en enfer, alors on va dire que la France n'est vraiment pas un pays où on peut vivre. Mais honnêtement, qui sont les Français musulmans qui croient des choses pareilles? Je pense qu'il faut dire sans cesse que l'immense majorité des Français musulmans se sentent bien en France. Ils acceptent la construction moderne, c'est-à-dire nous sommes tous humains, nous avons des droits humains, nous avons en tant que citoyens les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ensuite, nous sommes ceci ou cela librement dans le cadre de la loi. Et je pense que l'immense majorité des musulmans se sent très à l'aise dans cette forme de liberté, mais liberté protégée par un cadre commun.
Pour terminer, Philippe Godin, vous estimez qu'il faut valoriser deux institutions, l'Observatoire de la laïcité et la Fondation pour l'Islam de France. Pour quelle raison?
Alors, pour une raison très simple, l'Observatoire de la laïcité, parfois, il y a eu des polémiques à son sujet.
Mais observatoire dirigé par Jean-Louis Bianco.
Tout à fait. À l'origine, hein, c'est une longue histoire, hein, c'était une idée de Dominique de Villepin, et puis finalement, les décrets d'application n'ont été pris que du temps du président Hollande. Cet observatoire, son métier pour l'essentiel, c'est de rappeler les grands principes et le droit de la laïcité. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller sur le site de l'Observatoire de la laïcité, et vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de dossiers et qui sont tout simplement extraordinairement utiles pour justement la laïcité et l'hôpital, laïcité ou plutôt liberté d'expression religieuse et entreprise privée, que sais-je encore. Autrement dit, c'est un travail extraordinairement utile qui passe par ces dossiers qui sont en ligne et qui passe aussi par des formations qui sont accomplies par cet observatoire. De ce point de vue-là, je fais exactement le même métier. Quant à la fondation de l'islam de France, là aussi, il y a eu des polémiques. Alors, Jean-Pierre Chevènement, président, il n'est pas musulman. Bon. Mais en même temps, je pense que bon, l'itinéraire personnel et politique de Jean-Pierre Chevènement fait qu'il jouit quand même d'une réputation d'impartialité, et notamment à l'égard de la civilisation arabo-musulmane, et d'une sympathie et d'un intérêt vis-à-vis de celle-ci. Son directeur, M. Bachir Bakhti, incarne très bien cette haute fonction publique, lui qui a des origines issues de l'immigration. Et là, que s'agit-il de faire? Non pas du tout s'occuper du culte musulman, mais favoriser une formation civique et civile dans les fameux DU dont je viens de parler, qui peuvent être très utiles justement à l'acclimatation du culte musulman au système français, et puis promouvoir la connaissance savante, promouvoir la recherche. Et d'ailleurs, un portail sera bientôt construit où on pourra accéder à des tas de connaissances, où il y aura un certain nombre de vidéos, tout ça pour précisément faire en sorte que l'islam ne soit pas confisqué par ceux qui sont les moins raisonnables, mais qu'au contraire, ceux qui sont les plus raisonnables fassent preuve à la fois de passion et de présence.
Merci Philippe Godin. Je renvoie nos auditeurs à votre livre extrêmement intéressant, Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même. C'est publié aux éditions Robert Laffont. Bonsoir.
Merci beaucoup à vous et bonsoir à tous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.